trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
Toute l'équipe ou presque de Vendredi Théâtre est là, on attend encore Tito qui ne devrait pas tarder à arriver. Et par contre je suis avec Grazia, bonjour Grazia.
Bonjour à tout le monde.
Je suis avec Robin, bonjour.
Bonjour.
Je suis avec Marie, bonjour Marie.
Bonjour.
Et nous avons un invité, Adrien Vol de Direct Montpellier Plus.
Bonjour, merci de m'accueillir parmi vous.
C'est un plaisir. Entre caresses et coups de gueule, et pendant que Tito arrive dans le studio, entre caresses et coups de gueule, de quoi s'agit-il ? Eh bien, nous allons dire ce qu'on pense de certains spectacles qui sont passés sur Montpellier. Donc, une réunion de critiques, et on a 16 spectacles à traiter pendant cette émission que nous avons vus les uns et les autres, parce que je rappelle que dans Vendredi Théâtre, on voit les spectacles avant d'en parler, avant de recevoir des invités. On va commencer tout de suite, pendant que Tito s'installe, avec un premier spectacle, Dark Spring, qui était au 13 vents. Qui l'a vu ? Qui veut commencer ? Adrien, tiens. À tout seigneur, tout honneur. Tu vas commencer.
Donc Dark Spring, c'était un spectacle... j'ai plus le nom de l'auteur du texte, qui était un auteur...
Unikazurn.
Unikazurn, voilà, allemand. C'était joué par la grande, je cite le programme, Claude Deglia. Mais moi, ce qui m'a le plus plu dans ce spectacle mis en scène par Bruno Gélin, c'était le groupe de rock qui accompagnait le spectacle, Coming Soon. Alors, c'est des jeunes français, je crois qu'ils ont 20 ans de moyenne d'âge. Ils viennent de sortir leur troisième album. C'était pour moi tout l'intérêt de la pièce résidait dans ce groupe, parce que bon, je dirais peut-être un mot sur la prestation de l'actrice ensuite, et ça m'a presque frustré de voir un groupe aussi bon sur scène, sur une scène de théâtre, parce que je me suis dit tant qu'à aller voir du rock, ça m'ennuie d'être assis, j'avais envie de bouger, j'avais envie de me lever, j'avais envie de pouvoir vivre leur musique. Donc voilà, ça c'est une première chose. L'actrice, donc je rappelle, Claude Deglia, qui est encensée, qui est très appréciée habituellement, les 13 ans se faisaient un honneur de l'accueillir. Je sais que je vais peut-être choquer en disant ça, moi je l'ai trouvé épouvantable.
Carrément épouvantable.
Épouvantable, elle était dans une espèce de litanie. Alors le spectacle s'articulait, il y avait une chanson de Coming Soon, du groupe, et elle disait des textes de, je vais te laisser redire le nom, Florent, de
Unikazurn.
Unikazurn, voilà, je vais finir par l'intégrer, et j'ai trouvé ça épouvantable. Elle était toujours dans le même ton, dans une espèce de litanie. Oh, c'est terrible ce qui arrive à cette fille, tout le temps. Enfin, c'était assez. Et puis on la voyait arriver à 100 mètres, c'est-à-dire que on sentait la fin de la musique, et on sentait qu'elle allait commencer à parler. Je trouve que c'était assez, assez attendu, assez appelé. J'ai absolument pas été surpris. Et une dernière chose dans ce spectacle qui m'a assez gêné, c'est la traduction. La traduction du texte, parce que le texte en soi est un texte qui est beau, que j'avais eu l'occasion de lire et que je sais pas si jamais j'avais pas été choqué comme ça, donc c'est peut-être une fois porté à la scène que ça m'avait gêné. C'est la traduction. Alors la grand-mère est appelée la vieille dame aux cheveux blancs.
Mmh.
Voilà. L'objet, on parle l'objet pour parler du sexe masculin. Voilà, donc sur le coup, le spectacle m'a laissé une impression un peu de venez les jeunes, on a mis un groupe de rock sur scène pour vous faire venir au théâtre, et au final, on vous montre ce que le théâtre a de pire en essayant pourtant d'être ouvert et porté vers la modernité, quoi.
Et ce qui est très bien, c'est qu'on ne va pas être d'accord du tout là-dessus. Qui veut rebondir ? Qui veut rebondir ? Grazia, peut-être.
Je crois d'abord que le choix du metteur en scène, de mettre l'actrice en situation de lire, comme si elle lisait une partition d'ailleurs, durant tout le spectacle, a été fait aussi par rapport au fait que le texte originel, le texte du...
Vas-y, continue.
D'Unikazurn est ainsi conçu. C'est un texte à la troisième personne, me semble-t-il.
Tout à fait.
Pardon, on me règle...
Ton micro était un peu bas.
Mon micro était un peu bas.
On est en direct, je le rappelle.
Voilà. Donc, effectivement, ça donne une distance à la situation, à l'objet du texte. Moi, je me suis au contraire de vous pas du tout impliquée dans cette histoire. J'ai regardé effectivement comme si j'avais regardé un concert. Ça c'est clair. Et c'est vrai que la musique, ça a quand même alléger le texte et le récit de cette comédienne qui est apparemment très bonne, hein, et que j'ai rien à dire sur elle, j'ai pas à la critiquer, je ne l'avais jamais vue sur scène, donc je ne pourrais pas faire de comparaison. Somme toute, j'ai apprécié quand même sa prestation et celle du groupe qui est lui effectivement très très bon et que je souhaiterais comme vous revoir dans un vrai concert de rock, ouais. Ça c'est vrai.
Robin.
Oui, alors pour un jeune néophyte en théâtre comme moi, ce spectacle m'a paru quand même d'une grande originalité et l'expérience m'a beaucoup apporté. Le texte au début, c'est vrai qu'il est très cru, on n'a pas l'habitude de voir des textes mis en scène comme ça. Et au début, il me gênait un peu, d'autant plus que c'est vrai que la prestation de l'actrice est déroutante, parce que c'est une actrice qui est assez âgée, qui va jouer d'une façon qui est très enfantine, mais dans le bon sens du terme. Et du coup, au début, j'ai trouvé ce texte, ça m'a un peu gêné. Et après, en fait, le groupe est venu un peu comme une respiration, et redonner de l'ampleur au texte, redonner de l'ampleur à l'actrice, des moments de respiration, un peu de frustration. Et finalement, quand je suis sorti de cette pièce, elle m'a quand même fait beaucoup réfléchir. Et je trouve que c'est une des qualités principales qu'une pièce doit avoir. C'est-à-dire, déjà, je ne l'ai pas oublié, j'y réfléchis encore, je me pose des questions sur la nécessité de jouer ce genre de texte avec des rôles anciens.
Pour la prévention du viol et de l'inceste, peut-être, c'est un texte très dur.
Non, pas spécialement dans ce but, mais rien que des textes qui choquent un peu, des textes crus qui mettent en scène des réalités, oui, et des textes moins classiques.
Des textes qui provoquent un vertige à certains moments, je dirais.
Ah oui, absolument.
Et rappelons que ce n'est pas un texte qui est écrit pour le théâtre, c'est une adaptation qui a été faite pour le théâtre. Hein. Donc le phrasé n'est pas celui d'un phrasé de théâtre.
D'accord.
Hein, c'est une chose à signaler. Tito.
Moi, j'ai aimé tout ce que j'ai vu. Ça relève de l'opéra plutôt que du théâtre, mais le théâtre et l'opéra, moi, j'aimerais bien voir où est la cassure, puisque de toute façon, l'opéra était conçu comme une pièce de théâtre au départ, hein, par Monteverdi. C'était pensé surtout comme art total, donc il y avait les arts de l'époque, hein, donc la peinture, la sculpture, la danse, la musique et le chant, hein, et la représentation, et donc l'art dramatique. Et ça relève de l'opéra, de la bonne tradition de l'opéra oratorio, donc avec des longs récitatifs qui sont ponctués par un chœur qui est représenté par la musique, et là, en l'occurrence, c'était un groupe de rock. Donc, c'est extrêmement original dans la façon de faire, mais à la fin, c'est pas, ça, on a même discuté de ça avec le metteur en scène. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu en soi. Hein. Ça vient d'une très longue tradition qui existe depuis les Grecs. Hein. Ça se prend aussi avec le travail de Nordet, de Fall et de gens comme ça qui aiment bien plonger à nouveau dans la tradition grecque et dans ce jeu entre l'acteur qui dit et le cœur qui répond. Et non, moi j'étais très agréablement surpris. Le groupe est excellent. Le choix de la diction de l'actrice, pourquoi pas, moi, ça ne m'a pas gêné. Au départ, j'étais surpris, mais j'aime bien être surpris, alors ça ne me dérange pas. Si elle avait fait, au contraire, imaginons qu'elle avait fait une diction très réaliste, entre guillemets, eh bien, ça, à mon avis, ça n'aurait pas marché du tout. Alors, ce choix-là, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Quant au texte, bah, c'est la bonne traduction, bah, c'est allemand, et bah, c'est nous français, on ne peut qu'aimer ça, hein, c'est la bonne tradition française, hein, du texte cru qui appelle un chat un chat. Pour la traduction, je suis d'accord. Si, s'il y a quatre ou autre chose dans le texte allemand, il faut mettre beat dans le français. Je suis désolé. Parce que c'est la tradition, justement, qu'il y avait avant le 19e siècle d'appeler un chat, la princesse palatine, quand elle parle de merde, elle dit pas caca.
Absolument. Voilà. Ben, je vais dire moi ce que j'en pense. Moi, je pense que c'est l'un des meilleurs spectacles que j'ai vu dans cette saison. Je connaissais un
carrément.
Petit... Ah oui, je suis ressorti tout à fait enthousiaste. J'ai eu un petit quart d'heure difficile pour rentrer dans le spectacle puisque j'avais toute une bande de lycéens derrière qui ont passé le premier quart d'heure à vociférer, à causer et à commenter bêtement. Et donc, c'est vrai que c'est un texte où il faut un petit peu s'accrocher pour pouvoir rentrer dedans et j'ai eu un peu de mal à cause de ça. Sinon, la comédienne, moi, je l'ai trouvée irréprochable, rien à dire. La traduction... Peut-être que la traduction serait à revoir. Je ne suis pas assez germanophile pour le dire. En tout cas, c'est un texte à découvrir. Moi, je connaissais un petit peu l'auteur puisque j'avais lu un texte d'elle qui s'appelait L'homme jasmin, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Celui-ci, je ne le connaissais pas. Donc, pour moi, ça a été une découverte et puis un très, très bon moment. Et c'est vrai que le groupe est époustouflant. Ils ont 20 ans, mais ils sont bons comme des cochons. C'est pas possible. C'est... Être si jeune et avoir du talent comme ça, c'est tout à fait appréciable. Donc c'était donc Dark Spring, c'était un spectacle qui avait lieu au mois de fin mars, au 13 vent. On va changer un petit peu de rubrique avec un autre spectacle qui était dans une beaucoup plus petite salle, au Carré Rondelet. Et il s'agit de Stimulant amer et nécessaire. Grazia, tu l'avais vu, Stimulant amer et nécessaire avec l'inénarrable Paquita.
Oui, donc Paquita est une femme ordinaire, une madame tout le monde, qui aime le café et décide de combler sa solitude en jouant au bingo. Donc effectivement, elle rencontre à un moment donné dans ses réunions qu'elle fait de façon systématique pour se sortir de son quotidien, elle rencontre l'amour. Elle est même contaminée par l'amour, nous dit-on dans le texte, parce que effectivement, elle vit très mal cette situation amoureuse où à un moment donné, comme dans toute relation amoureuse, enfin, l'autre peut disparaître, peut ne pas être toujours d'accord avec nous. Et donc, elle en arrive à considérer l'amour comme quelque chose effectivement de tellement fétide qu'il faut l'éliminer physiquement. Donc, elle élimine d'abord donc son amoureux, si mes souvenirs sont bons.
Après, tes souvenirs sont bons.
il y a trois plateaux, hein,
trois parties
dans ce texte. Donc le premier, c'est cette histoire de bingo où elle finit par assassiner son amant. Le deuxième, c'est lorsque elle, je me souviens plus exactement.
C'est l'hôpital psychiatrique,
voilà, parce qu'on la prend pour folle évidemment, parce qu'on l'enferme dans l'hôpital.
Elle est un peu atteinte quand même. Elle est un peu atteinte.
On l'enferme dans l'hôpital psychiatrique et elle en finit par assassiner le psychiatre qui la soigne. Et après, changement de scénario, enfin de situation, alors qu'on croit que la pièce est terminée, hein, on se dit bon ben voilà, elle est définitivement folle, elle est effectivement il y a un problème là, hein, et là elle nous revient avec dans l'habit de l'actrice elle-même,
dans la peau de l'actrice
qui joue Paquita et qui discute avec son metteur en scène et après à la fin le tue aussi. Alors ce qu'elle dit à la fin, c'est très très significatif, peut-être un peu de l'éternel paradoxe du comédien, hein, qui est vraiment l'acteur, qui est le comédien, qui est l'interprète, qui est la personne qui interprète. Et alors, à un moment donné, elle dit « Il ne me reste peut-être que mes pas sur ce plancher rectangulaire et les mots, les mots, les mots. »
C'est quand même une performance de comédienne absolument extraordinaire, ouais, hein, ouais, puisque ça, oui, le dernier plateau, à un moment, on est complètement surpris, on ne sait plus où on en est, on se dit, est-ce que c'est la comédienne qui est en train de péter les plombs? Et en fait, au bout d'un moment, on est à 5 minutes d'incertitude quand même, où on se dit, ça y est, la comédienne craque et tout. Et en fait, non, pas du tout, c'est vraiment trop écrit pour être une rupture nerveuse sur scène. Tito.
C'est excellent, moi j'ai adoré, l'actrice est excellente, il faut la citer, moi je ne suis pas...
Isabelle Bondiau-Moinet.
Voilà, qui vient de Nice, et c'est vraiment un très beau travail, un très beau texte, qui pose énormément de questions sur l'érotomanie, sur... ça m'a fait penser, paradoxalement, à un film mexicain qui se passait dans le milieu des opératrices de téléphone, hein, et qui vont tous les samedis soirs jouer, danser le danson, et comme elle va au bingo. Bon, là, dans le film mexicain, elle ne tue personne, mais c'est un peu ces genres-là qu'elle décrit, ces femmes seules, qui sont encore jeunes, sont pas encore mûres et qui ont besoin d'amour et ne savent pas très bien où le trouver. Et après, ça c'est une chose. Après, l'autre chose c'est l'érotomanie. L'autre chose c'est la question du comédien, le paradoxe. Il y a énormément de choses dans le texte. J'ai beaucoup aimé.
Et ce que je voudrais très ajouter, rapidement, c'est qu'on est, vraiment, le spectateur est vraiment impliqué dans la situation, parce que elle arrive sur scène un peu comme si elle allait chez les alcooliques anonymes, hein, raconter son histoire. Et puis elle, à un moment donné, elle m'a demandé d'ailleurs, moi, une cigarette. Hein, voilà, elle parle au public, elle interpelle le public, et on se sent complètement impliqué, et ça fait réfléchir. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup, qui m'a parlé.
La pièce s'appelait donc « Stimulant amer et nécessaire ». On est un peu en retard sur l'horaire. C'était donc au Carré Rondelet, qui est une petite salle avec une programmation tout à fait extraordinaire.
Absolument, tout ce qu'on a lu, absolument. Cette année, et là, cette donc, saison, puisque nous avons un représentant de la presse écrite ici, nous pourrions peut-être lui dire de venir un peu de temps en temps. Alors, au Carré Rondelet.
Je me permets de répondre à ça. Le Carré Rondelet, j'y suis énormément allé pendant la première saison. J'ai vu une bonne partie des spectacles qui y étaient joué, et c'est bien malheureusement malgré moi que je n'ai pas pu encore y aller cette année.
C'était une petite provocation.
Et j'irai avec grand plaisir, et je trouve effectivement que c'est une salle qui mérite d'être connue, qui est au Carré Rondelet, qui est dans le quartier Rondelet, qui est une toute petite salle dirigée par Avner Pérez, que je salue, qui nous écoute peut-être, et qui mérite vraiment d'être connue, qui est jeune et qui, j'espère, a un bel avenir devant elle.
Ouais. On est un petit peu à la bourre, les enfants, on va aller un petit peu plus vite. Le prochain spectacle, c'est Les Nègres, qui a eu lieu au 13 vents. C'était quand Les Nègres, je ne me souviens plus, ça devait être du 20 au 23 mars, au 13 vents, avec des acteurs, pour la plupart, béninois. Qui veut intervenir là-dessus? Tito, tiens, toi tu as adoré le spectacle.
Oui, moi, et surtout ce qui a, ça me fait beaucoup rigoler, ce qui a choqué les Français, c'est-à-dire moi j'ai adoré le fait que ce soit dit avec l'accent local. Parce que, en tant que Portugais, j'ai bien l'habitude de ça, justement. C'est une chose qui est choquée au Portugal jusqu'aux années 70. Et ça fait donc plus de 30 ans que ça ne choque plus du tout d'entendre quelqu'un avec l'accent de l'Angola, l'accent du Timor, l'accent même de Macao ou du Brésil, qu'on écoute absolument tous les soirs à la télévision pour différentes raisons. Donc, le fait que ce soit béninois, je trouve que c'était très très bien. Ça apportait vraiment quelque chose à la pièce. Et ils ne bougent pas comme nous, ils ne parlent pas comme nous, ils ne disent pas le texte comme nous. Et donc, ça apporte un regard extérieur sur le texte. Et ça, c'était une excellente idée. C'était presque de l'ethnographie. Eh bien, de l'ethnographie, notre grand maître à tous, Claude Lévi-Strauss, il disait, pour faire de l'ethnographie, il faut avoir le regard éloigné.
Marie, toi, tu as vu le spectacle?
Oui, j'ai vu le spectacle et j'ai énormément apprécié aussi, notamment ce côté linguistique, enfin, la francophonie. Hein, ça remet en valeur la francophonie et ça nous rappelle que le français, n'est plus notre langue à nous, français, mais qu'elle appartient à énormément d'autres pays. Et donc, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, effectivement, de voir ces Béninois interpréter, au-delà du texte, interpréter aussi physiquement, parce que les Africains ont une manière très physique de s'exprimer. Et j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment. Après, je suis un peu plus mitigée, enfin, disons que je suis plutôt ambivalente. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce spectacle, mais parce qu'il traite des sujets qui sont importants pour moi, donc auxquels je m'intéresse. La question raciale, j'y suis très sensible. Donc, c'est pour ça que ça m'a plu. Mais je me demande si quelqu'un qui n'est pas spécialement impliqué par ces questions-là, si ça a parlé à tout le monde. À côté de moi, franchement, il y avait quelqu'un qui a ronflé, mais tout le monde l'entendait, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs, il faut le dire. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Il y a des moments où... parce qu'il est long, le spectacle. Hein. Il dure 2h30, je crois.
Oui, quelque chose comme ça.
Donc, il faut quand même s'approcher. Effectivement, si on n'est pas sensible, si on n'a pas une oreille musicale, j'ai envie de dire, parce qu'il y a cette dimension du texte aussi, on peut peut-être s'ennuyer. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui se sont ennuyés, mais...
Ce n'est pas le mot, non, mais ça y ressemble.
Vas-y, c'est à toi.
Oui, donc, les... C'était, je vous entends pas défendre avec beaucoup de conviction la francophonie, sauf qu'on est allé voir Les Nègres de Genet, ça aurait pu être Le Lâcher de Salope de Bigard, j'aurais compris à mon avis autant de mots avec l'accent qu'ils avaient. Bessé lui-même voulait mettre les surtitres, mais ne l'a pas fait. Pour pas se faire taxer de raciste. Malheureusement, les acteurs étaient bons corporellement. Ils incarnaient les personnages de façon très intéressante, vivante. On a vu un beau spectacle. La mise en scène était vraiment très intéressante, bien qu'un peu attendue, avec les blancs au-dessus, les nègres en dessous. Mais c'était quand même très intéressant, le jeu des masques et toutes ces choses-là. Mais c'était... Je comprenais rien. Des fois, je comprenais rien pendant 5 minutes. Voilà. Alors, je suis pas du tout fermé à la francophonie autour du monde. Je suis très intéressé d'ailleurs par tout un tas d'accents, de manières de dire le français, de manières de le parler qui restent pour moi des mines d'or. Donc, c'est pas du tout un reproche que je fais à l'accent de Cotonou, hein, parce que c'était une majorité d'acteurs béninois. Mais c'est que des fois, on ne comprenait rien. Vraiment, on aurait.
Alors. Très rapidement, Tito, on est déjà là.
Ça prouve qu'il y a un travail à faire en France. Il faudrait assumer le sous-titre. Les Brésiliens, si on leur passe un film portugais qui se passe dans un quartier pauvre du Portugal, ils ne vont rien comprendre.
Dans ce cas-là, assumons le sous-titre.
Un Portugais qui écoute n'importe quoi qui se passe, même un paysan des Açores qui parle, il ne comprend rien. Donc, c'est marqué un sous-titre. Parce qu'on parle tous la même langue, mais les accents peuvent être gênants. Il faut assumer qu'un accent, ça peut être gênant, qu'il n'y a rien de raciste ni d'humiliant à mettre des sous-titres pour des gens qui n'ont pas l'habitude. Les ch'tis ne parlent pas comme les Marseillais, et je doute qu'un Marseillais qui arrive directement à Lille va comprendre absolument tout le monde. Et donc, c'est comme ça.
Mais disons qu'on n'aurait pas hésité, en plus, je pense, à mettre des sous-titres si ça avait été des Québécois.
Mais bien sûr. Ouais.
Donc cette question-là. Et une dernière petite chose, c'est le message du colonialisme porté par cette pièce que je trouve dépassé. J'ai pas trouvé de résonance à l'actualité. C'est une belle pièce, c'est du Genet, on sait où on va. Quand on comprenait quelque chose, les mots étaient sublimes. Mais je trouve que le message de la pièce est dépassé aujourd'hui.
Bon, là, je ne suis pas d'accord du tout.
Hélas, non.
Vas-y, Marie.
Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Et justement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette question du nègre qui intègre la blanchitude et du nègre qui se veut blanc, qui se veut plus blanc que le blanc. Et ça, c'est de toute actualité encore en Afrique aujourd'hui, malheureusement. Et c'est désespérant, quoi. Je veux dire, c'est un combat qu'il faut mener. Les Noirs, encore aujourd'hui, voudraient être, hein, dans l'inconscient collectif, plus blancs que les Blancs, quoi.
Les Noirs qui sont habillés en blanc en haut, eh ben, ils nous rappellent bien des gens qu'on voit à la télévision quotidiennement. Hein.
Oui, Genet a écrit cette pièce en 1948, c'était vraiment à la sortie de la France.
55.
Il n'a pas écrit à la fin des années 40 ?
Non, 55.
Je croyais que, autant pour moi, je suis désolé, merci Florent, mais disons qu'il l'a écrit dans un contexte là où la France sortait du colonialisme.
Commençait à sortir du colonialisme. Commençait à sortir du colonialisme.
La France n'est jamais sortie du colonialisme.
Le colonialisme a changé de forme, mais le colonialisme est toujours là. Et c'est ça qui est intéressant dans cette pièce, dans ce texte de Genet, en dehors que c'est un très beau texte. Contrairement à ce que tu dis, moi je pense qu'il n'a pas vieilli. On peut dire qu'il est daté, mais il n'a pas vieilli. Il reste toujours d'actualité. Et c'est une langue magnifique. Je regrette tout à fait comme vous qu'il n'y ait pas eu des surtitres. Moi je connais le texte un peu par cœur, donc j'arrivais tout à fait à suivre. Mais j'imagine très bien qu'il y a des gens qui ont pu être perdus à certains moments. Moi je voulais signaler... Pardon ?
Moi aussi j'étais perdu parce que je ne connaissais pas la pièce. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à suivre l'enchaînement de 2h15.
Moi je comprenais assez bien. Alors c'est peut-être parce que j'ai une oreille étrangère.
Oui, peut-être que tu connaissais le texte aussi. Mais enfin, l'histoire est quand même assez complexe.
Je le connaissais
les gens,
mal,
les blancs qui jouent des noirs, qui jouent des noirs, qui jouent des blancs. Oui. Les inversions de rôle, les changements. Mais moi, juste ce que j'ai trouvé vraiment plus intéressant que la pièce, c'est l'expérience de mise en scène de la pièce et le fait d'aller chercher des acteurs au Bénin, de travailler le texte avec eux, et surtout de parler avec eux en fait après la pièce et d'explorer un peu la façon dont ils ont perçu le texte eux. Et la façon dont ça a été mis en scène, avec le metteur en scène, avec la participation des acteurs.
Grazia, très rapidement.
Je n'ai pas vu.
Donc moi, je dirais, pour finir sur ce spectacle, il y avait une chose à signaler aussi, c'était le bel enthousiasme des comédiens, qui était très communicatif. C'est vrai qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, mais néanmoins, moi, je suis sorti assez enthousiaste, parce qu'ils ont un enthousiasme communicatif. On va arrêter sur cette pièce. On n'est pas d'accord les uns et les autres. Donc c'était Les Nègres qui étaient au 13 vent du 20 au 23 mars. Et on va finir ce premier plateau avec un spectacle que Tito et moi, nous avons vu. Il s'agit de Haute Show qui était à Jean Villard. J'en dirai pas grand-chose parce que pour moi c'est un ratage complet. Un ratage complet. Ça se veut être du cabaret, ça se veut faire des références à l'Amérique latine. Tout est gratuit. N'a aucun sens. Je me suis beaucoup ennuyé, pour employer un euphémisme. Et je ne sais pas quelle a été ton impression à toi, Tito. Je crois que tu n'étais pas très enthousiaste.
Moi, j'ai envie de sauver les acteurs, de sauver le travail de chorégraphe que parfois peut être intéressant. Quant au reste,
moi,
le collage de
plat,
texte ne marche pas, la mise en scène est indigente. Et voilà.
Et on se demande ce que vient faire Frida Kahlo dans cette galère. Tout est gratuit et ne donne aucun sens. Voilà, c'était donc Haute Show, c'était à Jean Villard.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, c'est de 12h30 à 14h, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.